Vous écoutez
RMC. RMC, Charles Matin.
Le journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Une fusillade dans un commissariat de Paris hier soir. Deux policiers gravement blessés par un homme qui venait d'être interpellé dans le 13e arrondissement. Un des deux fonctionnaires est en urgence absolue ce matin. L'épidémie de choléra est contenue à Mayotte. Voilà ce qu'assure le gouvernement après deux mois de crise et la mort d'une petite fille de 3 ans cette semaine. Et le foot, Marseille battu 3-0 par l'Atalanta hier soir. L'aventure européenne qui s'arrête donc en demi-finale de Ligue Europa pour les Marseillais.
Et puis les PME meurent en silence. C'est l'appel au secours d'un chef d'entreprise après le journal. Un patron toujours étranglé par les factures d'énergie au point que la survie de sa boîte est en jeu. Alors même que son carnet de commandes est plein, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il nous raconte, il sera avec nous en direct dans 10 minutes. C'est l'information de la soirée, hein. Ce policier entre la vie et la mort ce matin.
Deux policiers ont été blessés par arme à feu par un homme qui venait d'être interpellé. Ça s'est donc passé à l'intérieur d'un commissariat dans le sud-est de la capitale, 13e arrondissement. Caroline Philippe pour RMC, vous avez des précisions?
Il est près de 22h30 à l'intérieur du commissariat du 13e arrondissement de Paris, dans la salle de fouille. Un homme qui doit être placé en garde à vue s'apprête à subir un dépistage. Il sent l'alcool. C'est à ce moment-là qu'il réussit à s'emparer de l'arme de service d'un policier. Il ouvre le feu et blesse grièvement deux fonctionnaires par balle. Les policiers le maîtrisent. Il est blessé au thorax lors de l'intervention. Mais ses jours ne sont pas en danger. Peu avant, dans la soirée, cet homme est interpellé dans un appartement du même arrondissement pour avoir agressé une femme à coups de cutter. Trois enquêtes ont été ouvertes, deux judiciaires pour tentative de meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. En parallèle, une enquête administrative sera également menée par l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale.
C'est l'autre information de la soirée. Le gouvernement assure que l'épidémie de choléra est contenue à Mayotte, où elle fait rage depuis environ deux mois, causant la mort d'une petite fille de 3 ans, c'était cette semaine. Des renforts sanitaires, 29 réservistes, ont été envoyés sur l'île. Le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, sur place hier, face à des ONG et des médecins, entre colère et dépit, nous dit Nicolas Repère.
La flambée des cas de choléra n'a malheureusement pas surpris Nicolas Salvador.
Les bidonvilles n'ont pas accès à l'eau. Vu les conditions d'insalubrité, on savait que ça allait se propager très facilement. En fait.
Le secrétaire général de l'association Mayotte à Soif dénonce l'inaction des autorités françaises dans l'archipel.
Ça a été sous-estimé. En plus, il manque de médecins au CHM, ou à l'hôpital de Mayotte. Donc du coup, c'est le tout en fait qui a fait que la situation est explosive.
Les renforts annoncés par le ministre de la Santé sont une bonne nouvelle, se félicite Marion Rammstein. Mais pour la coordinatrice générale de Médecins du Monde à Mayotte, il faut absolument aller au contact des populations les plus fragiles, comme les migrants.
Le choléra, c'est une maladie qu'on peut soigner, mais il faut agir vite. Pour ça, il faut encore une fois que les centres de santé soient accessibles, que les personnes puissent appeler le 15, qu'une ambulance puisse venir les chercher, ce qui n'est pas forcément évident dans les contextes de bidonville, mais surtout qu'elle n'ait pas peur de se présenter au centre de santé et d'appeler le 15 par peur d'être arrêtée ou interpellée par la police aux frontières.
L'ONG redoute cependant que les moyens humains mis dans la lutte contre le choléra ne se fassent au détriment des autres maladies qui frappent aussi Mayotte.
La situation au Proche-Orient ce matin, la balle est entièrement dans le camp d'Israël, dit le Hamas à propos des pourparlers pour une trêve dans la bande de Gaza. Israël, tiens, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publiquement soutenu hier soir la candidate israélienne à l'Eurovision en pleine polémique. Des milliers de manifestants étaient hier à Malmö, en Suède, puis ils protestaient contre sa participation à cette candidate israélienne au concours de musique.
Eden, je veux te souhaiter bonne chance. Tu sais quoi, tu as déjà gagné, car non seulement tu participes fièrement et de manière impressionnante à l'Eurovision, mais tu affrontes avec succès une horrible vague d'antisémitisme. Tu t'y opposes et tu représentes l'État d'Israël avec beaucoup d'honneur.
La candidate israélienne qui s'est d'ailleurs qualifiée pour la finale. Il y avait un monde fou hier dans les rues de Marseille. C'est un immense succès populaire pour le premier jour du relais de la flamme olympique. De la Bonne Mère, Notre-Dame-de-la-Garde, jusqu'au stade Vélodrome où Didier Drogba a allumé le chaudron, Eric Dimeco avant-dernier relayeur. Image impressionnante du rappeur Soprano sur le toit du stade. La flamme qui est dans le Var aujourd'hui, elle poursuit son périple. L'enjeu sécuritaire, vous le savez, il est énorme. C'est aujourd'hui d'ailleurs couvre la plateforme en ligne pour obtenir son QR code obligatoire pour circuler librement dans Paris près des sites olympiques durant la compétition. Il va falloir remplir tout un formulaire et attendre qu'une enquête administrative soit menée pour recevoir son pass, Marion Gauthier.
Plus vous vous approcherez des sites olympiques, plus la circulation sera complexe. Il y a le périmètre gris d'abord, autour des lieux d'épreuve, accessible seulement aux spectateurs munis d'un billet. Il y a aussi le périmètre rouge, puis le bleu. D'après le site de la préfecture de Paris, l'accès et la circulation sont libres pour les piétons et les cyclistes, mais réglementés pour les voitures, scooters et motos. Si vous habitez ou si vous travaillez et devez vous garer dans une zone rouge, il faut donc demander votre QR code et si vous comptez prendre un taxi, vous, le client, devez avoir un laissez-passer numérique. Pour la cérémonie d'ouverture et pour toute la semaine avant le 26 juillet, les accès sont encore plus restreints au plus proche de la Seine. Pas d'entrée de piétons ni de cyclistes sans QR code. Véhicules interdits, sauf rares dérogations.
En attendant les Jeux, un des événements du moment à Paris, c'est le concours Lépine, le concours des bonnes inventions à la Foire de Paris pour récompenser les meilleures inventions françaises. C'est la 123e édition. Cette année, on connaîtra les lauréats dans la journée. Mais il y a déjà des chouchous qui se dégagent, hein, Delphine Schiltz.
Une coupelle qui récupère la crème glacée qui coule des Esquimaux, c'est le produit star du concours Lépine auprès des parents comme Jessica.
Extraordinaire, franchement c'est super, j'en ai pris deux. Ça simplifie la vie pour les mamans, regardez, ça se met remis au congèle, il n'y a pas de gâchis, ça mérite une médaille d'or, vraiment.
Zéro gaspille, thématique très présente sur le concours cette année, c'est le cas avec cette douche cyclique qui recycle l'eau. Simon Bureau, son concepteur.
On peut réutiliser de l'eau autant de temps qu'on veut. Par contre, on consomme 70% d'eau et d'énergie en moins que dans une douche traditionnelle.
Un concept qui pourrait intéresser William. Il travaille dans l'hôtellerie.
Moi, je trouve ça super. Il va falloir sensibiliser les gens de toute façon. À l'économie d'eau, à l'économie d'énergie, à tout, je pense.
André, 10 ans, a aussi repéré une invention.
La plus chouette que j'ai vue, c'est la voiture gonflable qui se met dans un sac.
Celle de Benoît Paillard. Une voiture sans permis, 4 places, électrique et portative, un pari fou.
On va faire une véhicule électrique qui coûte 3000 euros. Comment on fait ça? On fait véhicule le plus léger possible. On remplace les parties métalliques par de l'air. Et là, on a gagné notre pari.
Reste à convaincre de potentiels investisseurs, car c'est ça le Lépine. Le vainqueur ne gagne pas d'argent, mais une notoriété.
Bon, et puis il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe de football cette saison. Bah oui, c'est fini après Paris. En Ligue des Champions, c'est Marseille qui a été éliminé en demi-finale de Ligue Europa hier soir. Sèchement battu par l'Atalanta à Bergame. Les Marseillais n'ont plus que la Ligue 1 où ils sont 9e pour se consoler, Jean Rességué.
Les naufragés de Bergame vont devoir vite réagir dès dimanche avec la venue de Lorient en Ligue 1. Et pour Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain marseillais, l'objectif est clair, finir le plus haut possible dans le classement.
On n'a pas le choix, surtout parce qu'on a un match qui va arriver très vite. Le football, c'est ça. Parfois, on tombe et il faut se relever très très vite. Donc, c'est à ça qu'on voit le caractère des joueurs et de cette équipe. Donc, ça sera à nous d'avoir du répondant et de terminer de la meilleure des manières le championnat.
Du rêve au cauchemar avec cette sévère mais logique défaite et donc élimination. Et pour Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'OM, il faut faire le plein de points. 9 sont en jeu de Lorient au Havre en passant par le match en retard à Reims mercredi prochain.
On a rêvé. On a fait un beau parcours avec des soirées exceptionnelles au Vélodrome. Maintenant, il nous reste 3 matchs en 8 jours. Et il faut prendre le maximum de points pour que Marseille soit européenne l'année prochaine.
Et d'ici le 19 mai, qui symbolisera la fermeture de la saison, les joueurs marseillais ont l'occasion d'offrir un vrai sursaut d'orgueil à leurs supporters qui le méritent bien.
Et ce sera une finale Atalanta-Leverkusen fin mai cette Ligue Europa. Les Allemands qui se sont qualifiés en arrachant le nul de partout hier soir contre la Roma. Série impressionnante de 49 matchs sans défaite pour les Allemands.
Ouais, beaucoup de déçus ce matin sur l'application RMC. Il y a Christophe qui nous dit la flamme aura été absente à Bergame. Bah oui, elle était à Marseille, mais elle n'était pas à Bergame hier soir. Jérémy qui nous dit le foot français c'est comme au tennis, après les quarts il n'y a plus personne. Bon, on verra si au tennis il y a des gens en quart, c'est pas sûr. Hein.
Attends, là c'était les demi-finales quand même.
Voilà, là c'était les demi-finales. Quentin Vinet qui aura la flamme pour revenir tout à l'heure pour le journal de 7h.